מה שאמרתי זה משמעי הוא קשר וישר שירפי טוטל מה זה כתב
אני פשוט קומבטי הוא קשר אולה שרוקות רוקות נעוד איתו ואני מפריסיבות ובאיש פוליציון פרפור על כך.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce dernier numéro de Paroles aux auditeurs pour cette semaine. Paroles aux auditeurs, une émission interactive des Radio Capi au cours de laquelle vous avez la parole pour vous exprimer sur les grands faits marquant l'actualité et les préoccupations quotidiennes. Ce vendredi 8 janvier, nous parlons des personnes vivant avec handicap. Selon les statistiques livrées par le ministère des Affaires sociales en RDC, 6 millions de Congolais vivent avec handicap. Ces chiffres représentent environ 10% de la population congolaise. Toujours selon ces statistiques, parmi les 6 millions de personnes vivant avec handicap, 800 000 sont non-voyants et 1 300 000 personnes ont des problèmes sérieux de vue, distinguant difficilement les personnes et les choses. Et sur ce sujet, il s'est tenu à Kinshasa en fin d'année le premier atelier africain sur la situation des personnes vivant avec handicap sur les territoires, sur les continents africains. Nous en parlons tout de suite avec vous dans cette émission. Et parole aux auditeurs vous pose des questions. Quelle est la place qu'occupent les personnes vivant avec handicap dans la société congolaise et comment les encadrer pour le rendre utile dans la société? Nous avons au téléphone Madame Adèle Kaïnda Maïna, elle est rapporteure de la personne vivant avec handicap auprès de l'Union africaine et qui a participé à l'atelier sur-mentionné. Fidèles auditeurs, voici votre émission.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Comme je venais de le dire au début de cette émission, environ 10% de la population congolaise, ça veut dire que 10% de la population congolaise vit avec handicap selon les statistiques qui ont été livrées par le ministère des Affaires sociales. Cela veut dire que 6 millions de Congolais vivent avec handicap, parmi lesquels 800 000 sont non-voyants et 1 300 000 personnes ont des problèmes sérieux de vue et distinguent difficilement les personnes et les choses. Et en fin d'année, il s'est tenu à Kinshasa en atelier, c'est le tout premier pour l'Afrique, consacré exactement à la situation des personnes vivant avec handicap sur le continent africain. Et Princesse Adèle Kaïnda a participé à cet atelier où elle a été nommée rapporteure de la personne vivant avec handicap auprès de l'Union africaine. Nous sommes avec elle dans cette émission et vous, les auditeurs de Radio Capi, pour parler exactement de la place qu'occupent les personnes vivant avec handicap dans la société congolaise et surtout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour les encadrer et les rendre utiles. Princesse Adèle Kaïnda, bonjour.
Bonjour, merci.
En regardant les statistiques de personnes vivant avec handicap en RDC, on se rend vite compte que c'est une situation préoccupante, n'est-ce pas?
Si.
Princesse Adèle, je disais, en regardant les statistiques, on se rend compte, vous rendez aussi compte que la situation des personnes vivant avec handicap est préoccupante dans notre pays.
Oui, c'est une situation très préoccupante. Et pour nous, en tant que responsables politiques, ça doit nous interpeller parce que nous devons pouvoir y proposer des mesures appropriées pour voir comment est-ce que nous pouvons arriver à mettre fin à cela. Et ce qui veut dire que effectivement, ces personnes ont une place de choix dans notre constitution parce que quand vous êtes au titre 2, à l'article 11, qui parle des droits civils et politiques, l'alinéa est libellé ainsi. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Et l'article 12, enchaîne en disant, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de loi. Ce qui veut dire que cette catégorie de personnes vivant avec handicap, c'est une catégorie qui doit nous interpeller, comme je venais de le dire, pour que nous puissions prendre des mesures appropriées. Vous savez, par exemple, nous les femmes, cette disposition nous a été reconnue dans la Constitution à l'article 14, mais nous nous sommes battus pour qu'il y ait une loi de mise en œuvre de la parité homme-femme. Et le journal officiel a déjà publié, c'est ces lois ont été adoptées par les deux chambres. Par exemple, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Et nous avons l'autre loi numéro 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec les VIH/SIDA et les personnes affectées. C'est qui veut dire que la Constitution donne le principe de la protection du peuple congolais, mais il y a des lois qui accompagnent cette protection, telle que je venais de vous énumérer.
Donc,
pour nous aussi, je pense que nous devons arriver à cela pour que nous puissions parler de cette équité de la protection.
Et Princesse Adèle, si on regarde bien ce qui se passe à travers le pays, on dirait qu'il n'y a pas assez de force fournie par le gouvernement, soit les responsables politiques pour l'encadrement de personnes vivant avec handicap.
Oui, effectivement, bon, vous savez certaines choses. Quand tel problème se pose, je m'excuse. C'est pourquoi je salue cette initiative de l'association Africa Handicap qui a initié ce premier atelier africain sur la situation de la personne vivant avec handicap dans notre continent africain, et qui, cet atelier, doit aboutir à une élaboration de l'avant-projet de la Charte africaine pour la défense, la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap physique et mental. Nous avons travaillé, on y a réfléchi, et à ces assises, moi j'ai parlé, le Parlement africain et la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir une conscience collective de parlement de notre continent qui doit prendre cette question vraiment à cœur. Et que nous, qui n'êtes pas encore touchés à ça, parce que je me dis, nous tous, nous sommes des personnes handicapées, des potentiels handicapés, on doit avoir vraiment le cœur à l'ouvrage pour que nous puissions réfléchir déjà là-dessus, ne fût-ce que cette catégorie de personnes trouve sa protection, sa défense dans une loi nationale.
Oui, merci, Princesse Adèle. On va revenir à vous, parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs en ligne. On va d'ailleurs revenir à vous parce que l'article 49 de la Constitution parle exactement d'une loi organique pour les personnes avec handicap. On va revenir à vous. Juste le temps aussi d'écouter quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, comme Dr. Richard qui nous écoute, qui nous appelle de Kinshasa, et Augustin qui nous appelle de Kindu.
Parole aux auditeurs.
Dr. Richard, bonjour.
Bonjour aussi à tous les auditeurs et à l'honorable dame qui est invité.
Docteur Richard, est-ce que vous pensez vraiment que le gouvernement en RDC font assez pour prendre en charge et encadrer les personnes vivant avec handicap?
Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu qu'on puisse élargir la vision de la personne vivant avec handicap. Ce n'est pas seulement l'aveugle ou le malvoyant, mais il y a aussi celui qui a la malformation, celui qui bégaye, celui qui boite ou celui qui est paralysé, celui qui est sourd ou sourd-muet de naissance ou par accident, et celui qui aussi est incapable de se défendre sur le plan immunitaire. Okay? Donc, le handicap est multiforme. On doit élargir cette définition. Celui qui est incapable de procréer, c'est un handicapé, une personne vivant avec handicap. Alors, maintenant pour revenir à votre question, je dirais ceci, il faut qu'on définisse où commence et s'arrête le droit de la personne vivant avec handicap. Moi-même, je suis personne vivant avec handicap. J'ai fait 7 ans de cécité totale. Je n'ai pas eu le droit à la joie, le droit à la visite, le droit au respect, le droit au soutien. Vous savez que pendant que j'étais dans cet état-là, les gens qui me devaient avaient nié qu'ils me devaient. Et on croyait à ces gens. J'ai pu même plusieurs fois insulter pendant que je me suis adonné à restituer à la communauté nationale le peu de choses qui étaient dans mon cerveau en allant faire des démissions à la RTNC, à la Méchée, comme à d'autres, à la CBS, à la radio Réveil FM, et enfin à la radio CVV de Maman Olaine. J'ai été consulté par les taximens, consulté par mes voisins dans le bus, et à tel point que mes enfants qui m'accompagnaient pleuraient. Alors nous demandons, nous posons la question, où commence et s'arrête le droit? Notre invité qui a assisté à plusieurs rencontres là-dessus, si elle amorce une définition du début de la fin du droit, je peux rentrer dans d'autres témoignages. Parce que pendant 7 ans, tenu à la main, j'ai donné beaucoup de choses à la République dans les émissions à la CVV de Maman Olaine. Beaucoup de choses. Là où, comme aveugle, j'avais 12 émissions. Donc, comme tu dis, c'est bien le droit de la personne vivante et handicapée. Et là, nous allons continuer à cogiter. Mais ce que je sais, la personne vivante et handicapée dans ce pays n'a pas de joie parce qu'il y a un sujet à tout moment. On ne le respecte pas parce que bousculé, malmené à tout moment, et on ne le soutient pas. Je dis des personnes avec handicap, on leur refuse l'accès dans le bus. Et même si nous sommes passés par là, on a eu la compassion de les tenir parfois à la main pour dire « Allez, saute un peu, je t'aide un peu pour entrer dans le bus parce que
docteur Richard, vous avez vous-même connu cette situation pendant 7 ans. Est-ce qu'on ne peut pas attribuer cela à l'absence de textes spécifiques, n'est-ce pas, pour effectivement définir les droits des personnes vivant avec handicap?
Vous savez, la radio CGV, donc, avant d'arriver à Mbindapijon, était dans le fond du ministère des Affaires sociales. Ces gens qui dirigent le ministère des Affaires sociales, les administrateurs qui sont encore là, me voyaient tenir à la main. Par contre, les émissions là-bas. J'ai fait beaucoup d'émissions. Et je continue à en faire. J'ai même un projet d'une autre émission qui, comme vous avez dit, peut-être aujourd'hui, le handicap, sa survenue, c'est donc les causes. Et puis, c'est la gestion, surtout au niveau de la gestion. C'est là où, dans mes manuscrits, je vais montrer comment j'ai formé mes enfants pour qu'ils soient utiles à moi et que ce qui était dans mon cerveau à ce moment-là soit utile à la République. Parce que j'ai fait des émissions. Le monde rural, allô docteur, Golden Day, on aussi, Marthe à la cuisine, le citoyen, la santé, le citoyen, le droit, ça c'était mes émissions. Je suis tout parti, c'est beaucoup d'émissions que j'ai faites là, 12 au total, toutes personnes qui viennent à la main. Mais qu'est-ce qu'on m'a restitué comme soutien, comme protection? Parfois, avec mon fils de 4 ans, on se faisait mourir et les gens passaient.
En tout cas, docteur Richard, vraiment, merci de votre témoignage. Désolé pour ce qui est arrivé, mais je crois, vous le dites bien, notre invité va nous dire qu'on définisse clairement où commencent les droits de la personne vivant avec handicap, où est-ce que ces droits se terminent. Et surtout, le grand problème aussi, c'est de définir clairement ce que l'État doit faire dans un texte spécifique pour s'occuper de la personne vivant avec handicap. Merci beaucoup, docteur Richard, pour votre témoignage, surtout cette proposition par rapport à ce qu'il faudrait faire. Nous allons aussi à Kindo et à Augustin qui nous appelle. Augustin, bonjour.
Bonjour, monsieur l'animateur.
Augustin, vous venez de suivre Dr. Richard qui lui-même a connu la cécité pendant 7 ans. Il est aveugle pendant 7 ans. Il a donné le témoignage de ce qu'il a connu comme problème par rapport aux droits qu'il doit avoir, n'est-ce pas, une personne vivant avec handicap. Quelle est votre contribution à ce niveau de l'émission, Augustin?
Ok, merci. Je dirais que, à ce que je sache, toute personne a ses droits, et étant une personne qui a un handicap, il a droit à tout ce qu'il doit comme un être vivant. À cela de tienne, je voudrais dire tout simplement que on ne doit pas négliger ou sous-estimer les hommes qui sont en handicap, parce qu'ils ont toutes les facultés comme toute personne, et ils ont les différentes capacités. Alors, ce que nous devons seulement faire, c'est quoi? Nous devons les rapprocher. Rien ne sert de les humilier ou de les écarter dans la société où nous sommes. Étant donné qu'ils peuvent aussi nous apporter un plus. Il n'est pas dit que quand on est dans un handicap, on est incapable de faire tout ce qu'on peut faire. Bien sûr, il y a parmi parmi ces gens-là ceux qui sont incapables de faire quelque chose, mais plus nous retrouvons aussi ceux qui nous aident avec certaines idées et à faire quelque chose dans la vie. Donc, pour conclure, je dirais que toutes ces personnes-là ont les droits et ils ont aussi certaines facultés pour faire des choses, évoluer les choses en avant.
Augustin, à Kindu, vous êtes, est-ce que vous avez des témoignages? Vous avez par exemple des écoles de formation, d'encadrement, des ONG qui sont actives, n'est-ce pas, dans l'encadrement des personnes avec handicap? Est-ce que vous les voyez à Kindu en activité, Augustin?
Oui, oui, monsieur l'animateur, je vous le confirme parce que moi qui vous parle, j'avais étudié avec certains handicaps, certaines personnes handicapées, par exemple. J'ai mes amis qui occupent des postes le plus élevé dans des organismes internationaux. Et ils s'en sortent là très bien. C'est pour dire qu'ils sont capables de faire quelque chose. Il y a ceux qui ont fait les études universitaires et ils sont bien assis quelque part. Et nous avons aussi certains organismes qui encadrent ces gens, par exemple dans les ateliers de couture, la cordonnerie, dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'histoires. Donc, en bref, ils ont toutes les facultés et les capacités de réaliser tout ce qu'ils peuvent réaliser comme personne handicapée.
Merci beaucoup, Augustin, de nous avoir appelé de Kindu et surtout de cet encouragement par rapport à ce que les gens doivent faire pour intégrer les personnes avec handicap et les encadrer. Nous revenons à vous, Princesse Adel Kainda. Vous êtes rapporteur de la personne vivant avec handicap auprès de l'Union africaine. Vous avez suivi le docteur Richard. Si je veux vous lire l'article 49 de la Constitution de la RDC, l'article dit ceci: la personne du troisième âge et la personne vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales, et une loi organique fixe les modalités d'application de ces droits. C'est là où réside le problème. On a la loi sur les enfants, sur les personnes avec le VIH et SIDA. Où en est-on, vous qui êtes encore d'ailleurs député national, y a-t-il déjà un chantier par rapport à la loi spécifique sur les personnes vivant avec handicap aujourd'hui?
Merci. Je dois d'abord commencer à remercier et à féliciter le docteur Richard de tout ce qu'il a fait. Et ici, à mon introduction, je commençais d'abord par soulever des dispositions générales. Parce que la personne vivant avec un handicap, c'est d'abord un être à part entière. Je l'ai dit, et maintenant je vous ai tenu informé que nous devons prendre maintenant des mesures appropriées. C'est que nous devons prendre maintenant une loi nationale qui doit pouvoir réglementer cette disposition. C'est la loi organique qui fixe. Et moi, je vous dis que, en assistant à cet atelier, je me suis déjà commencé à réfléchir pour que, à la session de mars, que je dépose cette loi de la personne vivant avec handicap, parce que j'ai pris une part active à l'élaboration de cette charte. J'ai toutes les recommandations. Mais ce que j'ai pu quand même dire, soulever, comme l'a dit notre frère de Kindu,
Augustin,
je lui ai dit, même nous, soi-disant dits valides, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Ils s'ignorent. Mais maintenant, même pour la personne vivant avec handicap, j'ai dit d'abord, le premier remède est que la personne puisse se découvrir pour dire « j'étais l'handicap ». De deux, que la personne puisse accepter cet handicap avec fierté. Et de trois, qu'elle s'assume. Pourquoi? Parce que notre État congolais n'a jamais mis de mesures discriminatoires à l'égard de la personne vivant avec un handicap. De telles mesures, vous allez voir même des personnes dites valides qui peuvent être peut-être objet d'une discrimination dans le bus, comme le docteur l'a dit, ou même sur le plateau des chaînes. Mais cela, si ça arrive, on doit avoir le courage de dire « tu n'as pas le droit de me dire » parce que j'ai toujours dit « le droit c'est un acquis, ce n'est pas une faveur ». Quand tu te retrouves dans une situation et que tu sais que ça c'est ton droit, personne ne viendra défendre ça à ta place et toi-même. Ici, raison pour laquelle j'ai dit, la loi portant protection de l'enfant, nous l'avons, vivant avec le VIH/SIDA et personnes infectées, nous avons. Mais maintenant, nous devons réfléchir, et moi j'ai déjà commencé à réfléchir, sur cette disposition de la loi organique à l'article 49, qui je dois présenter, parce que la session extraordinaire, vous savez que là, c'est le bureau qui fixe l'ordre du jour, mais la session ordinaire, le calendrier est ouvert. Je déposerai. Et nous allons travailler en collaboration avec les personnes vivant avec handicap.
Merci beaucoup, Princesse Adèle. Il y a Fajima qui est en Boujima et Adrien qui est à Ilebo. On va vous retrouver tout de suite.
Ok.
Savez-vous que vous pouvez faire entendre votre voix et exprimer votre opinion et que la radio Capu vous en donne la possibilité? Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Retrouvez Pierrot et la Magie et toute son équipe dans Parole aux auditeurs.
Kajima, vous êtes en Boujima et bonjour.
Alors, exactement, bonjour.
Nous parlons des personnes vivant avec handicap. Hein. Je crois que la situation est la même aussi en Boujima. Quelle est votre opinion rapidement par rapport à cette question et comment encadrer les personnes vivant avec handicap pour qu'elles soient utiles à la société congolaise?
Exactement, je suis en train de saluer l'initiative des organismes internationaux parce que nous avons constaté qu'avec amertume que le gouvernement congolais s'intéresse moins aux gens qui vivent avec l'handicap. Mais ce que je voudrais encore savoir est que il y a multiformes d'handicap, mais nous oublions encore, si vous pouvez éclairer encore un tout petit peu sur comment découvrir et qui sont handicapés et qui ne le sont pas, parce que je vois il y a des gens qui sont déformés au niveau de l'air du corps. Il y a aussi les personnes que, par exemple, qui ne voient pas et avec des incidécites. Nous voulons avoir vraiment une précision sur vraiment comment peut-être un handicapé. Il y a les autres qui ont, par exemple, les dents déformées, qui peuvent dire qu'ils sont aussi handicapés. Donc, si vous pouvez éclairer un tout petit peu là-dessus.
Oui, merci.
Mais je crois que c'est bon, comme l'initiative a été vraiment amorcée par les organismes internationaux. Nous comptons beaucoup sur eux, mais pas le gouvernement, vraiment, les histoires trop primaires, les gouvernements ne s'intéressent pas, mais comment ça sera pour les handicapés. Et puis, j'ajouterais aussi que la situation s'aggrave encore de plus en plus avec la guerre et les attaques des hommes armés. Nous constatons qu'ils sont en train de s'amplifier encore davantage, monsieur.
Merci beaucoup, Kajima. Nous allons poser toutes ces questions parce qu'on aura en ligne tout à l'heure le président de l'association des personnes avec handicap de la province et de la ville de Kinshasa. Il pourra donner la différence qui sont, en fait, il pourra lister les handicaps si possible, y compris aussi les personnes vivant avec les personnes à peau pigmentée, appelées autrement albinos, parce qu'il y a un auditeur qui a posé cette question. Merci beaucoup, Kajima, de nous avoir appelé de Mbujima au Kassai oriental. Adrien, vous n'êtes pas loin de Mbujima, mais vous êtes à Ilebo, c'est dans la province du Kassai occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Ferré Lamingé.
Merci beaucoup. La préoccupation est celle de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour intégrer et encadrer les personnes avec handicap. Vous qui êtes à Ilebo, par exemple, que faut-il faire ainsi un an? Comment on peut se débrouiller à Ilebo pour les aider?
Oui, monsieur Ferré, moi je pense que l'unique solution que je peux donner, c'est quand ça concerne le gouvernement, il faut qu'il y ait une politique générale qui s'intéresse vraiment aux handicaps. N'ignorons pas qu'il y a certains de ces handicaps-là qui se sont sacrifiés, qui se sont donnés corps et âme pour le drapeau de notre pays. Là, je verrais que c'est les militaires, il y a les policiers, parce que lorsqu'il y a des guerres, des agressions comme ça, nos frères, nos sœurs se donnent comme ça pour sauvegarder vraiment le statut national, mais après, ils sont des invalides, donc ils restent comme ça handicap, mais au retour, nous voyons que le gouvernement congolais ne fournit aucun effort pour vraiment venir en aide de toutes ces personnes-là. J'aimerais vous donner un exemple, M. Pierrot. Aujourd'hui, j'étais à l'écoute de la Radio France Internationale. J'ai entendu comment est-ce que le gouvernement gabonais venait au secours de toutes ces personnes-là vivant avec handicap. Pourquoi pas notre pays ne peut pas aussi le faire?
Merci beaucoup, Adrien. Il faudrait que le gouvernement s'arrange. Je reviens à vous, princesse Abdel Kaïnda. Vous avez suivi les préoccupations de nos auditeurs. Il a donné l'exemple du Gabon, mais là aussi, il y a par exemple la Tanzanie qui a prévu dans sa constitution de coopter au sein du Parlement de personnes vivant avec handicap et aussi ceux qui vivent avec la peau pigmentée pour leur permettre de s'exprimer. Mais l'article 49 dont nous avons évoqué ensemble avec vous parle aussi que l'État doit promouvoir la présence dans les institutions des personnes vivant avec handicap. Vous voyez encore que tout, la balle tourne et c'est là. On revient au niveau de ceux qui doivent prendre les décisions pour aider les personnes avec handicap. Faut-il aujourd'hui faire comme en Tanzanie, les intégrer, les coopter dans les institutions comme dans d'autres pays, Princesse Adèle?
Oui, je pense que lors de la télé, j'avais illustré mon propos par l'expérience de la Tunisie, où effectivement, pour arriver à pallier cette situation, parce que quand nous allons aux élections, il y aura toujours cette discrimination, mais ce n'est pas l'État qui est en train de promouvoir cela, mais c'est juste une compétition sur le terrain. Donc pour nous, normalement, les mesures appropriées est que nous devons recourir aux quotas. Par exemple, nous disons, dans telle institution, nous devons avoir autant de personnes, mais nous réservons tel quota à la personne vivant avec handicap. Parce que comme M. Dembougemaï l'a dit, c'était d'une manière très brève compte tenu du temps, en fait cet handicap c'est juste une incapacité qui peut être physique ou mentale d'un organe à une autre personne. Vous pensez, par exemple, c'est dans la loi que nous devons décrire, par exemple, une personne qui a cet handicap mental, puis ne pas faire ça, mais cette personne est en mesure de pouvoir prester à ça. Avec handicap physique, donc, tout ça sera traité dans cette loi organique. Mais ce que moi je me demande, la voie de sortie. La voie de sortie est que nous puissions arriver à ce que nous puissions avoir deux quotas. Deux quotas dans toutes les institutions de notre pays. Par exemple, c'est là, la première structure à la conquête du pouvoir, ce sont les partis politiques, c'est-à-dire les personnes vivant avec handicap qui œuvrent dans tel ou tel parti politique, doivent se dire, nous sommes dans tel parti politique, nous demandons au secrétariat exécutif national, ou provincial, ou urbain, ou communal, qu'il y ait tel nombre de personnes vivant avec handicap. Nous allons dans le milieu du travail en ce qui concerne les recrutements de personnes pour dire, tel qu'on a recruté, on doit réserver ça. Ça, c'est ce qui doit être des mesures incitatives pour pouvoir arriver à pallier à cela. Et c'est tout un processus. Je pense que du fait que l'État congolais est très conscient de ça, et dans tous les gouvernements, nous avons un grand ministère des affaires sociales et affaires humanitaires qui traite vraiment en grande partie la situation de la personne vivant avec handicap d'une manière générale. Et moi, par exemple, concernant cette loi, nous allons travailler en partenariat avec notre collègue honorable Ilunga qui est à l'Assemblée nationale, qui a été élu de Quito, qui vit avec cet handicap, mais qui est député et qu'ensemble nous allons travailler pour présenter cette loi. Mm-hmm. Ce qui veut dire que nous pourrions corriger certaines dispositions dans les lois qui existent. Pour moi, je me dis, la première voie, c'est de réserver un quota à la personne vivant avec handicap.
Merci.
Vous dites?
Merci beaucoup, François Adèle. Je rappelle à nos auditeurs qu'on aura aussi honorable Ilunga, nous l'aurons tout de suite là, il sera aussi en ligne pour participer dans cette émission. On l'aura. Mais là, nous avons déjà M. Camille, qui est le coordinateur provincial des personnes avec handicap ici dans la ville de Kinshasa. Il va aussi nous donner son témoignage par rapport au travail qu'il est en train de faire sur le terrain. M. Camille, bonjour.
Bonjour. Je réponds au nom de l'équipe de Camille.
Merci beaucoup.
Pour une meilleure audition, j'aimerais mieux parler en Lingala.
Je crois que peut-être ça peut être mieux, mais ça risque de poser des problèmes aussi à l'interactivité de l'émission. Hein, si vous parlez en français, c'est mieux. Nous allons faire un effort pour que les autres auditeurs puissent comprendre.
La plupart des personnes avec handicap, pour bien comprendre, il faut que je parle en Lingala.
Oui.
En bilingue, tantôt français, tantôt Lingala.
Mais nous aurons les difficultés à vous relancer hein, pour que nous puissions faire le débat, parce que nous-mêmes, nous aurons des difficultés à vous relancer en Lingala.
Bien sûr, vous pouvez poser la question en français, moi je réponds toujours à Lingala. Ça ne pose pas de problème. J'ai la matière d'handicap. Je vais vous fournir tout ce que vous voulez pour handicap.
Allez-y. La première question. S'il vous plaît, monsieur Camille. S'il vous plaît, monsieur Camille. Monsieur Camille, s'il vous plaît.
Pardon?
S'il vous plaît, je veux vous poser la première question, hein, c'est celle de savoir, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes assez écouté et encadré par le gouvernement, vous qui vivez avec handicap dans vos structures, est-ce que l'État s'occupe de vous, est-ce que vous êtes écouté?
Négatif, c'est depuis au moins deux décennies que nous sommes là, l'État a s'occupé par la personne handicapée, c'est la raison pour laquelle vous m'en avez à article 49 de la Constitution, loi organique existe là, rien. Bautiko copier ma chef coutumier na échéance une petite collégale à la députation ma chef coutumier ma copier bango et pourtant biso na organisation na biso pour faire tout un gina monsieur la bête malumali pour te déclarer situation na biso comment biso pour ma copier biso pour la question na compétition na ba valide alors monsieur malumali a s'accroché na l'organique. Or depuis des décennies des années l'organique wana est en élaboré sous notre pied handicapé à mandiacaté. Tout ce qu'on passe le 3 décembre, handicapé à Congo Brazza. Est-ce que ce monde handicapé à Congo Brazza n'a pas la balle? A vous, c'est un bon. Négatif. Et dans la loi, et dans la texte, où les alliés, pourtant, vous êtes handicapé, pour que handicapé à l'aise. Mais il y a ma prédécesseur, mais là-bas aussi pour les cas. Alors, vous très bien que handicapé à l'aise à part entière. Mais, l'autorité, vous voyez, vous allez tenir compte d'handicapé. Or, autorité n'est pas un candidat handicapé. Or, ceux qui ont voté loi pour la personne vivant avec handicap et concerné la personne valide dans le temps pour l'objet par accident à cause de mon handicap, à cause de profiter de la loi. Moi, je suis ingénieur électricien. Je suis électricien de la commune de Kinshasa. Le bâtiment où tout ça, la Chico, la commune de Kinshasa, c'est moi l'ingénieur. C'est moi qui a conçu le chemin, la réalisation de cette installation-là. Donc, cela prouve que handicapé a gali nécessaire na kati ya bati. A gali motololenge moko na bati nyosu. Eza le ministre, eza la président de la République, eza la président du Sénat ou du Parlement. To gali kaka bati, lolenge moko me aspect physique nde moutou et séparé du sou.
Monsieur Camille, oui, il y a un problème de fond aussi. Est-ce que bon, les personnes avec handicap sont-ils vraiment organisées, structurées? Parce qu'on voit tellement aussi des associations disparates. On ne sait pas quelle est l'association qui prête avec qui. Peut-être que les autres créent des ONG, s'il faut les appeler bidons, qui veulent avoir des financements, mais qui, entre eux-mêmes, les personnes avec handicap, mais cela ne profite pas aux autres membres des associations. Est-ce que vous connaissez le même problème et faut-il aussi mettre de l'ordre dans les secteurs?
Merci pour la question, parce qu'il existe une structure d'encadrement et orientation des personnes vivant avec handicap qui s'appelle FECOPEA, Fédération Congolaise des personnes vivant avec handicap. Et ça, la personnalité juridique qui a arrêté le ministère de l'affaire sociale. Mais regret, on a eu un peu de temps, on a eu 6 millions de statistiques. Nous nous sommes organisés au niveau provincial, communal et des associations. Donc, nous allons représenter mon handicap à Zila Kinshasa. Dans la commune, Bazali, vous allez au moins à 25 communes parce qu'il manquait que d'ascender à deux. Selon l'arrêté, la fédération est la seule structure interlocutaire valable pour défendre la cause des personnes vivant avec handicap. Mais l'État ignore ça. Mais lui-même, l'État qui nous a donné les documents, mais l'État y est moko, a d'abord ignoré cette structure. Mais évitez par quel canal au Bango Bazali. Statistiques, on va tous les 6 millions.
Les statistiques,
moi, j'étais le président communal des personnes vivant avec handicap de la commune de Kinshasa. Ici, dans la commune de Kinshasa, j'ai enregistré au moins 237 handicapés enregistrés. Nous avons encore fait le recensement frais, négatif.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Camille. Ces statistiques ont été données au mois d'octobre dernier par un représentant du ministère des Affaires sociales ici à la Radio Capitale, l'émission Parole aux auditeurs, pour parler des 6 millions de personnes vivant avec handicap à travers toute la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Camille. Vous êtes les coordinateurs provinciales des personnes vivant avec handicap ici à Kinshasa. Madame Adèle Kayinda va vous répondre par rapport à la procédure sur la loi. Et Sylvain, vous êtes à Bounia. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'à Bounia, vous avez les mêmes difficultés par rapport à l'encadrement des personnes vivant avec handicap?
Oui, permettez de saluer rapidement les auditeurs de la radio Capi. Je pense qu'à Bounia, ces problèmes existent. Cependant, permettez, monsieur le journaliste, sans tenir compte des tergiversations sur les chiffres donnés par le monsieur qui vient de parler, 6 millions, c'est 10% de la population congolaise des personnes vivant avec les handicaps, ou soit son chiffre de 230, ça, ce n'est pas un problème. Le réel problème, c'est la gestion de ces personnes qui vivent avec les handicaps physiques, moraux, tant mental. Ce problème, il est un problème réel dans notre société. À Bounia, par exemple, il y a des ces personnes qui vivent. Et moi, la responsabilité n'est pas tellement au gouvernement, mais plutôt la responsabilité pourrait être jetée d'abord sur l'environnement, soit le ménage ou la famille. Pourquoi je dis ainsi? Imaginez une personne qui vit avec un handicap physique ou mental, mais il se retrouve au début de boisson. Et le soir, il rentre avec tous les problèmes d'accident, il peut être écrasé par un véhicule et il y a un problème. Est-ce que là, il faut encore demander l'aide du gouvernement? Je pense que le premier point de solution, c'est qu'il faudrait qu'on puisse adopter un système de facilitation au niveau des familles, afin que ces personnes-là se prennent en charge. La madame a eu à dire, il faudrait que nous puissions d'abord reconnaître que nous sommes handicapés, que ça soit pas sur le plan mental que physique, et en même temps accepter cela, et comprendre que nous avons des capacités à agir dans la société, et non pas vouer l'État à un état de misère. Je pense que l'État, aujourd'hui, des personnes qui vivent avec les handicaps, sont plutôt des gens qui ont compris qu'ils ne valent rien à la société, et bien donc, plutôt donner à cette personne.
Oui, merci beaucoup Sylvain, on a un problème de ligne avec vous. Merci quand même de nous avoir appelé de Bounia, mais vous pensez qu'il faudrait que la responsabilité de la personne vivant avec handicap soit d'abord au niveau de la famille, au niveau de son environnement immédiat, avant de pouvoir rejeter tout cela sur l'État. Merci de nous avoir appelé de Bounia en province orientale. Eloy, vous êtes ici à Kinshasa, et vous-même, vous avez un témoignage parce que vous vivez avec handicap. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Eloy. Hein. C'est par rapport à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.
Merci beaucoup. J'ai écouté le témoignage parce que moi-même, j'ai vécu pendant 13 ans à Brazzaville et je suis un grand sérigraphe. Donc, quand je parle comme ça, je suis parcouru toutes les institutions. Donc, le ministère me connaît très bien. Mais je suis combattu personnellement parce que j'ai entendu le docteur donner son témoignage sur ce qu'il a connu comme difficulté. Vous voyez, moi je pensais que nous les handicapés, c'est surtout dans le métier où on va nous retrouver. Mais maintenant que j'ai introduit mon idée, j'ai pensé que rester au pays comme ça pour apprendre au concert à faire la ségrégation comme moi-même, j'ai sollicité au niveau du ministère qu'on me donne un espace dans les phénomènes où nous sommes d'ailleurs. Mais je pense que j'ai même passé une émission à la radio au Capimam. Mais je vous dis ce que je suis en train de... J'ai été donc pour illustration. Vous voyez, le jour que le ministre est venu pour visiter notre centre, on m'a fait arrêter, on m'a enfermé à la sociale pour seulement m'empêcher de rencontrer le ministre. Et puis, qu'est-ce qu'on va raconter? Que je suis... Donc, ils ont inventé beaucoup de choses qui font très mal. Parce que moi-même, je suis père d'une nombreuse famille. Et quand vous voyez vraiment dans la rue, je serai quelqu'un à respecter. Mais parce que seulement je suis avec un handicap, même ce que je peux moi-même... aider... Mais parce que je suis handicapé, vous voyez qu'il me regarde avec un œil qui n'est pas très bien pour une grande personne que je me veux. Parce que si j'étais à l'école, c'est pour qu'un jour je défende. Moi, je pense renverser la situation au lieu que moi je tende la main. C'est moi qui donne au contraire. Et ce que je suis en train de faire, si réellement le ministère était attentif à ce que je dis à ma demande, j'aurais formé tant peu que rien, donc même deux ou trois handicapés que j'aurais lancés dans le secteur de la sérigraphie. Mais vraiment, j'ai rencontré des embûches, même les responsables, je ne veux pas citer les noms, parce que la fois passée, quand j'ai cité, on m'a trouvé pas très bien. Mais les responsables qui m'ont dit que l'handicapé n'est pas spécial.
On a appelé le ministère des Affaires sociales pour des handicapés. Vous voyez que ça sort d'une personnalité du ministère des Affaires sociales.
Okay.
Ça fait très mal.
Monsieur Loy, vous dites que vous faites la sérigraphie et vous avez demandé au ministère de vous donner un espace afin de créer une école où vous pouvez encadrer les autres et que le ministère ne vous a pas écouté. Est-ce que vous avez mené d'autres démarches auprès, par exemple, de l'Assemblée nationale pour introduire votre dossier parce que votre proposition, elle est quand même intéressante.
J'ai contacté pas mal de députés, mais vraiment, c'est très grave. Donc, je n'ai pas très longtemps, depuis très, voici 10 ans, d'ailleurs, c'est cette année que je vais fêter 10 ans de l'ONG. Quelle personne m'a dit, je n'ai pas rencontré. D'ailleurs, pour vous donner l'exemple, j'ai rencontré personnellement son excellence, monsieur le ministre Ingele, quand il était au cabinet. Et le ministre était intéressé. L'autre fois, le ministre Jean-Claude Muyambo a écrit pour qu'on nous donne une réponse favorable. Et c'est pourquoi, quand le ministre Muyambo est parti, avant que l'actuel Barthélemy Boutchali vienne au centre, on a fondé cette façon-là de m'incarcérer pour que. Voilà. Donc, vraiment, j'ai parcouru tous ceux qui peuvent nous venir en espèce. En aide,
et rien n'a été fait.
Des promesses, nous vivons que des promesses. Voilà, 10
merci
ans,
beaucoup.
Après, 10 ans après, je n'ai pas vraiment
merci
trouvé.
Merci beaucoup, Eloy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eloy. Désolé pour ce qui vous est arrivé lors du passage du ministre dans votre atelier. Nous pensons que, avec l'atelier qui s'est tenu à Kinshasa, la charte qui sera élaborée, le Parlement qui va finir par avoir même un texte qui sera adopté, cela peut donner la voix d'expression aux personnes avec handicap pour qu'on trouve solution à tous ces problèmes. Merci, nous vous encourageons vraiment pour ce que vous êtes en train de faire. Battez-vous encore. Comme Princesse Abel l'a dit, nous pensons qu'on finira par vous écouter parce que nous allons aussi prendre l'honorable Ilunga, qui est député national, qui lui-même vit avec handicap.
Merci
beaucoup, Eloy. Honorable, vous venez de suivre Eloy, qui vit avec handicap, qui est sérigraphe, mais qui s'est battu et personne ne l'écoute. Est-ce que vous qui êtes à l'Assemblée nationale, honorable Ilunga, est-ce que vous avez l'impression vraiment que les personnes vivant avec handicap sont écoutées et ils ont un espace d'expression pour qu'on puisse les encadrer et que le problème puisse trouver solution, honorable?
Oui, absolument. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas beaucoup plus écoutées parce que le gouvernement, donc notre État n'a jamais promis une loi ou des mécanismes qui peuvent garantir la protection de ces personnes-là. Et voilà pourquoi la plupart d'entre nous souffrons et beaucoup de gens n'ont plus où est-ce qu'ils peuvent aller demander le secours. Donc c'est dit que beaucoup de gens, nos compatriotes, ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de mécanisme par lequel ils peuvent passer pour défendre leurs droits et réclamer ce dont ils ont besoin. Donc le gouvernement n'a pas facilité la protection de ces personnes-là et ne s'intéresse pas, n'a même pas un programme, une politique donnée pour gérer les personnes vivantes avec handicap.
Ok, honorable Lou, on vous garde en ligne. Il y a aussi Hortense qui nous appelle des gommes qui encadrent les personnes avec handicap. Mais on revient à vous, honorable princesse Adèle Kaïnda, vous qui avez participé à l'atelier. Vous avez suivi vraiment le projet passion des uns et des autres. Mais est-ce qu'il suffit tout simplement d'avoir une loi ou il suffit aussi d'avoir la volonté, parce qu'il y a autant de lois en RDC. Mais avoir une loi, c'est une histoire. Mais la faire exécuter ou appliquer ce qui est dans la loi, c'est aussi une autre affaire, Princesse Abel.
Oui. En fait, la lutte était ardue, mais je dois avouer que l'État congolais tient vraiment à la personne vivant avec handicap. Parce que vous savez que la Constitution, pour nous, c'est ça la loi sacrée. C'est la loi mère. C'est la loi suprême. Si on doit prévoir une disposition dans la Constitution, disons, personne avec handicap, personne de troisième âge, moi j'ai dit, c'est même une volonté manifeste de l'État congolais envers cette catégorie de personnes. Et ici, nous devons être très optimistes. Très optimistes pourquoi? Parce que la Constitution nous reconnaît que l'initiative de projet de loi ou proposition de loi, c'est une matière concurrente. C'est qui veut dire que ici, nous devons effectivement nous dire si c'est le ministère des Affaires sociales qui doit initier cela, et je l'ai dit, ça doit être un projet de loi. Si le gouvernement ne le fait pas, et que nous, le Parlement, nous disons, nous allons initier une proposition de loi, c'est déjà de fortes avancées. Parce que la Constitution nous donne ses pouvoirs, et c'est la raison pour laquelle je me dis, à cela, ce qui veut dire que nous devons arriver à capitaliser cela, parce que nous ne pourrions pas seulement... nous ne pourrions pas seulement effectivement être là pour dire, écoutez, l'État nous a oubliés, l'État a fait ceci. Non, si l'État a oublié, pourquoi l'État a prévu dans une constitution que cette matière puisse figurer? Raison pour laquelle je dis, comme c'est une matière concurrente, ce qui veut dire que ça peut être initié par le gouvernement ou par le Parlement. Et moi, je suis très optimiste. Je sais que nous allons initier cette loi. Parce que quand il y a une loi, dans la Constitution, on énonce les principes. Et ces principes prennent corps dans cette dans la loi organique. Donc ici, tout ce qui va se passer, par exemple, ceux qui œuvrent dans tel ou tel métier, en fait, toutes ces activités seront reprises dans cette loi organique et tout le monde va retrouver son compte. Merci. Donc moi, ici, je me dis, nous devons rester optimistes, monsieur le journaliste, s'il y a tel ou tel qui est arrivé, mais maintenant, oublions ce qui s'est passé. Qu'on se concentre, je vous ai dit que d'ici nous les 15, ça sera la session extraordinaire. Cette session, il y a déjà l'ordre du jour qui est établi. Et moi, je vous dis, à la session ordinaire, comme j'ai préparatif à l'atelier qui s'est initié à Kinshasa, nous allons initier une proposition de loi que nous allons déposer au bureau de l'Assemblée. Et je sais qu'avec les concours de toutes les personnes qui viennent d'intervenir, ceux qui interviendront, nous allons travailler la main dans la main, nous allons nous serrer le coude pour que nous puissions déposer cette loi. Parce que, comme j'ai assisté à ça, j'ai des matières, je me suis déjà mis au travail et je vous ai dit que nous allons le faire, donc que les gens restent optimistes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-10 par internet et à @radiookapi.net.
Radio Okapi donne la parole aux auditeurs aujourd'hui dans l'émission Parole aux auditeurs qui tend déjà vers la fin pour parler sur les personnes vivant avec handicap et leur place dans la société et leur encadrement pour les rendre utiles. Hortense, vous êtes à Goma. Nous vous gardons en ligne honorable Ilunga parce qu'il y a aussi Hortense qui est à Goma et l'encadre les personnes avec handicap. Hortense, votre difficulté, c'est que vous formez les personnes avec handicap, mais ils ont des problèmes sérieux d'être embauchés dans la société. Bonjour, et c'est ça, n'est-ce pas?
Bonjour, oui, c'est ça. Donc, nous nous formons, nous nous appuyons, dans, nous donnons l'assistance à frais scolaires. Donc, nous payons les primes et les frais académiques, mais ils étudient dans des institutions de la classe, oui.
C'est-à-dire que vous avez autant de personnes qui sont avec handicap que vous encadrez, ils sont dans les institutions, vous les prenez en charge, mais quand ils ont le diplôme, ils ont le problème d'être embauchés et de trouver de l'emploi, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est un problème vraiment sérieux, puisque la communauté pense que la personne handicapée doit seulement servir au centre pour handicapés. Il faut bien que la communauté comprenne que notre place, ce n'est pas seulement au centre pour handicapés. On doit être embauché partout et il faudrait vraiment un grand plaidoyer et une grande sensibilisation pour qu'on faire comprendre à toute la communauté, toutes les ONG qui sont là, et que la personne handicapée a toutes les potentialités possibles pour servir pour le bien-être de la nation.
Et c'est-à-dire que vous avez eu 15 de finalistes qui n'ont pas encore eu de l'emploi depuis 3 mois, et 200 autres sont dans les écoles en train de suivre. Mais qu'est-ce que vous devriez faire aujourd'hui à Goma concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces personnes pour lesquelles vous dépensez de l'argent puissent parvenir à trouver de l'emploi et puissent être libres dans la société, madame?
Oui, moi je pense que d'abord, j'ai sali les 5 chantiers, il faudrait que vraiment ces 5 chantiers soient concrets. Parce que c'est l'État qui doit pouvoir l'emploi pour tout le monde. Mais maintenant, c'est comme stratégie que nous pensons faire. Moi, j'ai entendu bien les ONEM et nous pensons que comme ONEM est ici présent, il y a une antenne à Goma, nous pouvions collaborer avec ONEM pour voir que dans les sélections, des gens qui donc des matchs et des lobbying, des plaidoirs qu'ils font quand il y a des offres d'emploi, qui voient dans quelle mesure aussi insérer s'il y a 10 offres, voir comment faire les plaidoirs avec nous, insérer 5 ou 4 ou quelques-uns de donc personnes vivant avec handicap.
Merci beaucoup, Hortense. Nous pensons que l'ONEM pourra bien aider ces personnes pour lesquelles vous vous débattez à ce qu'ils puissent trouver de l'emploi, être encadrés. Et aussi, quand il y aura cette loi, je pense que cela peut aider facilement aussi qu'ils soient intégrés dans les institutions, que ce soit dans la société. Pour revenir à vous, honorable Ilunga, faudrait-il aujourd'hui créer un ministère spécifique de la personne vivant avec handicap? Et peut-être que ce ministère soit tenu par une personne vivant avec handicap pour faciliter l'expression à ceux qui sont concernés. Vous pensez que c'est possible de créer un ministère aujourd'hui, s'il faut tenir compte même des chiffres donnés par le ministère des Affaires sociales?
Mais pas nécessairement qu'il faut créer des ministères chargés de gestion des personnes vivant avec handicap, mais le même ministère des Affaires sociales est celui qui est plus chargé aux questions de personnes vivant avec handicap. En plus, cet ministère seulement doit changer sa politique. Donc, il faut que le ministère adapte la politique aux réalités du moment. C'est-à-dire, nous avons en présent des personnes vivant avec handicap qui demandent qu'ils soient assistés. Il faut voir si le ministère, en matière de personnes vivant avec handicap, ils ont une politique bien adaptée. L'intégration de ces personnes-là est assistante de ces personnes-là sur tous les plans professionnels sur le plan de l'intégration dans la vie sociale. Donc, il n'est pas question qu'on puisse créer un ministère qui est chargé de la gestion des personnes vivant avec handicap, mais il faut voir comment on peut adapter la politique de gestion du ministère à des affaires sociales en matière de personnes vivant avec handicap. En plus de ça, l'intégration des personnes vivant avec handicap au niveau du ministère est très négociée. Parce que dans d'autres pays, on trouve qu'il y a certains personnes vivant avec handicap qui ont pu occuper des postes ministériels. Mais je pense que ce sont des personnes qui peuvent bien connaître les problèmes spécifiques aux personnes vivant avec handicap. Donc, lorsqu'on met une personne vivant avec handicap au ministère, donc il connaît très bien le problème que connaissent ces personnes-là et il peut répondre à leur préoccupation. Nous pensons justement que dans la loi qui doit être, la loi organique qui doit être votée, qui doit être présentée, proposée, je pense que tout cela pourra être défini de façon qu'on puisse prendre en compte les préoccupations de nos compatriotes.
Merci beaucoup, honorable Ilunga. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes député national et vous-même, vous êtes personne vivant avec handicap. Merci de toutes les propositions. Nous allons aussi prendre honorable Lola Kisanga, lui est sénateur, et c'est notre dernier auditeur. Honorable Lola Kisanga, nous vous prenons à la fin de cette émission parole aux auditeurs consacrés à la personne avec handicap. Vous, en tant que sénateur, que faudrait-il faire aujourd'hui concrètement pour permettre l'intégration effective des personnes vivant avec handicap et leur encadrement dans la société congolaise?
Non, je pense que ce qui est utile à retenir, j'ai suivi un débat très intéressant, c'est que d'abord que la question soit soumise dans un débat national, comme vous le faites déclencher par la radio Capi, mais que ceci se fasse au niveau des institutions de la République, ce serait encore une excellente chose. Des deux, la question concernant les personnes avec handicap entre dans le cadre global de l'ensemble des problèmes qui touchent les personnes dites vulnérables. Nous devrions avoir au niveau du gouvernement une politique nationale à cette matière. Et de ce fait, le Parlement, l'institution dans laquelle je me trouve, devrait accompagner cette politique en mettant sur pied l'arsenal juridique qui démontrerait les droits et les devoirs des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables. Je voudrais donner l'information à mes collègues qui m'ont précédé, je suis l'honorable Adem, pour dire qu'au niveau du Sénat, Le bureau du Sénat a déjà reçu une proposition de loi de notre collègue Eve Bazaïba en cette matière concernant les personnes vivant avec handicap. Il nous reste à l'examiner au niveau de la conférence des présidents pour en juger la réservabilité, mais nous attendons, il y a un préalable qui doit absolument être réglé par le gouvernement, c'est que le gouvernement doit au préalable solliciter au niveau du Parlement la loi d'autorisation de la ratification de la convention internationale que notre gouvernement a signée concernant les personnes avec un vivant avec un handicap.
Oui.
Le gouvernement ne l'a pas fait, nous l'avons saisi. C'est pour cette raison que nous avons fait ce soir l'examen de la recevabilité de cette proposition de loi de notre collègue, en attendant que le gouvernement nous introduise un projet de loi de ratification. Parce qu'en cette matière de ratification, l'initiative est exclusive du gouvernement.
Merci beaucoup, honorable sénateur Lola Kisanga. Désolé qu'il nous reste une minute pour terminer l'émission, mais on rend compte que le débat il est très intéressant par rapport à la personne avec handicap. On pourra y, bien sûr, y revenir dans nos prochaines émissions. Nous allons terminer avec vous, honorable princesse Abel Kaïnda. Vous êtes rapporteur de la personne avec handicap auprès de l'Union africaine. C'est la fin de l'émission. Vous avez juste 25 secondes pour que vous puissiez clôturer et terminer cette émission, honorable.
Merci beaucoup. Je pense que dans tout ce que nous faisons, comme Lune l'a dit, le simple chantier est que nous devons nous tous donner l'impulsion pour qu'il y ait cette interaction. C'est que je veux dire, on ne peut pas tout attendre en matière d'emploi, que les chefs de l'État puissent faire ça. Mais quand nous sommes en train d'initier ou de former les personnes vivant avec handicap, nous devons aussi avoir une politique de se dire que quand ils terminent cette formation, qu'ils sont à mesure aussi de pouvoir s'autogérer.
Merci pas beaucoup,
dire seulement qu'on doit les recruter dans telle ou telle structure,
merci beaucoup,
mais de pouvoir aussi initier de projets qu'elles-mêmes doivent se prendre.
Merci.
Et pour terminer, je me dis, nous devons juste donner des idées.
Merci beaucoup, Princesse Adèle. On saura plus continuer parce qu'il nous reste là quelques secondes pour finir cette émission. Merci à toute l'équipe et parole aux auditeurs. C'est Tim Poutou, Marie Chantalumba, Maombi Mukomia et Jean-Noël Mokondo. On se retrouve le lundi prochain pour parler du rétablissement des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Selon vous, quel peut être l'impact du réchauffement de ces relations sur le plan économique? PA@radiocapi.net. C'est l'adresse pour envoyer vos points de vue. Cette émission a été supervisée par Nicole Ngaka. Bon week-end à tous.